Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une. Que s'est-il passé rue de Charonne, à Paris, ce dimanche 7 avril? Trois personnes sont mortes après un incendie. Mais l'autopsie de deux corps a révélé des blessures par balles. L'enquête est désormais entre les mains de la brigade criminelle. Les investigations se poursuivent, rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. Le scénario qui est en train de se dessiner est glaçant. Il y aurait eu un double meurtre. Un homme aurait ensuite chuté par la fenêtre. Il n'a pas survécu. Au départ, les secours pensent intervenir sur un incendie qui s'est déclaré au 7e étage d'un immeuble parisien. Au total, 17 véhicules des sapeurs-pompiers sont dépêchés sur place. Le bâtiment est situé en plein cœur de Paris, 146 rue de Charonne, non loin de la place de la Bastille. Ce dimanche 7 avril, en début de soirée, les habitants de l'immeuble sont tous évacués.
On m'a tellement dit de sortir très très vite, machin, parce qu'il y avait explosion, après on me disait il y a le feu, machin. Donc moi je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis enfilé vite les trucs et je suis sortie comme ça. À l'aveuglette, quoi.
Une autre habitante raconte avoir entendu le bruit d'une grosse explosion.
C'était vraiment un gros boom, quoi. J'ai entendu « il y a le feu ». Nous sommes sortis, on est passé par l'escalier, il y avait des pompiers qui étaient déjà là, qui montaient.
Très vite, les habitants s'interrogent. Pourquoi cette explosion? Comment a-t-elle pu se produire? D'autant qu'il n'y a pas de gaz dans l'immeuble. Qui sont les victimes? Deux personnes tuées dans l'incendie et un troisième homme qui a chuté par la fenêtre. Il était, semble-t-il, le locataire de l'appartement qui a pris feu. Un témoin raconte l'avoir vu tenter de gagner l'appartement voisin en escaladant par l'extérieur. Il aurait chuté. 7 étages. Une chute fatale. Les pompiers ont tenté, en vain, de le réanimer. Jocelyne, sa voisine, le connaissait. Et voici ce qu'elle raconte le dimanche soir à BFM TV.
J'ai appris qu'il avait du monde chez lui, une dame et un enfant, et qu'ils sont morts carbonisés. Et ça c'est un peu dur à passer.
Ce dimanche soir, juste après l'explosion, la maire de Paris, Anne Hidalgo, réagit sur le réseau social Instagram.
C'est avec une grande émotion que j'adresse aux familles et aux proches des victimes toutes mes condoléances. Et tient à assurer du soutien total de la municipalité qui se tient à leur côté.
Le parquet de Paris ouvre alors une enquête pour destruction par incendie ou moyens dangereux et homicides involontaires. L'enquête est donc d'abord confiée aux enquêteurs de la police judiciaire de Paris pour tenter de comprendre ce qui a pu déclencher l'explosion et les flammes à l'origine de ces 3 décès. Mais très vite, les policiers sont dessaisis au profit de leurs homologues de la brigade criminelle. Car plusieurs points ne collent pas. D'abord, l'explosion de gaz. Peu crédible, il n'y en a pas dans l'immeuble. Ensuite, les bruits d'explosion entendus par des habitants dans les heures qui ont précédé le sinistre. Alors question, l'incendie serait-il d'origine criminelle ? Ce sont les corps des victimes retrouvées dans l'appartement qui vont parler. Les résultats des autopsies vont faire prendre à l'enquête une toute autre tournure. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV.
Les expertises menées sur leur corps vont montrer que ces deux hommes qui se trouvaient dans l'appartement en flammes présentent en réalité des blessures par balle, probablement des blessures faites avant l'incendie. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu un assassinat avant que l'incendie ne soit déclenché? Est-ce qu'il y a eu un homicide puis un suicide? Pour l'instant, toutes les pistes restent ouvertes et donc les enquêteurs parisiens tentent de reconstituer le fil.
Reconstituer le fil de ce qui ressemblait au départ à un incendie. Pour BFM TV, Angie Luata a interrogé une nouvelle fois Jocelyne, la voisine. Et voici ce qu'elle raconte avoir entendu quelques heures avant que les flammes ne se propagent.
J'étais avec une amie
Et d'un seul coup, d'un seul, on entend, j'entends un coup de feu.
Un coup de feu.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça n'était pas un pétard. C'était, vous voyez, un coup sec. Bon, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, elle me dit, je sais pas. Oh, écoutez, 3-4 minutes après, rebolote. Eh, j'y dis donc, on nous tire dessus, là. Oh, elle me dit, viens, viens, on sort du passage. Bon, on sort et puis c'est tout. Mais personne ne parlait de ça. Alors moi, j'ai dit, oh là là, moi, je me tais parce que, bon, je veux pas les influencer. Parce que tout le monde disait, ah, mais il y a eu l'explosion à 20h, il y a eu une explosion à 20h, tout le monde parlait de ça. Bon, j'ai dit à mon mari, j'ai entendu une explosion à 20h, toi? Il me dit non. Bah, j'ai dit, moi non plus.
Une autre habitante s'est confiée à RMC. Elle raconte, elle aussi, avoir entendu des explosions.
Bien avant, à 14h déjà, il y a eu une première explosion. On pensait que c'était ou des travaux, ou je sais pas, un meuble qui tombait, mais on n'a jamais pu croire ou imaginer que ce serait des balles, quoi. Et sinon, on aurait prévenu la police tout de suite.
L'une des victimes retrouvées dans l'appartement a été découverte sur un canapé. À ses pieds, au sol, du tissu et des morceaux de journaux imbibés d'essence. Le journal Le Parisien raconte également que l'individu qui a chuté par la fenêtre a été identifié. Il s'agirait d'un homme de 38 ans, né en Afghanistan. Sur lui, 4 téléphones ont été retrouvés, ainsi que son passe-navigo. Bonjour Arnaud Loctin.
Bonjour.
Vous faites partie de la police scientifique, vous êtes délégué syndical Alliance Police Nationale. On est évidemment qu'au début de l'enquête sur ce qui s'est passé rue de Charonne à Paris. D'abord, on imagine que lorsque les policiers arrivent sur place juste après l'incendie, très vite, est-ce qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'une simple explosion? Et sur quoi est-ce qu'ils se focalisent dès le début?
Il faut procéder par le visuel sur l'environnement. Déjà, l'environnement extérieur. Là, il s'agit d'un immeuble, d'un 7e étage. La première des choses est de regarder ce qui a pu se passer éventuellement à l'extérieur avant de pénétrer et d'aller éventuellement comprendre ce qui s'est passé dans la scène.
C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans l'appartement, ils vont déjà voir si, par exemple, la porte est ouverte?
C'est une des premières choses, effectivement. Le but des constatations scientifiques, c'est d'aller du général au particulier. C'est-à-dire qu'on fonctionne en avançant et sans oublier la totalité de la scène qui peut avoir commencé à l'extérieur, parce qu'à cet instant, on ne peut pas le savoir.
Alors évidemment, cette enquête a pris une autre tournure quand il y a eu les résultats de l'autopsie des victimes qui se trouvaient à l'intérieur de l'appartement et qui ont donc été, c'est une certitude, tuées par balle. Là encore une fois, comment procède la police scientifique sur les victimes et dans l'appartement?
Alors, sur les victimes, ce n'est pas qu'un travail de police scientifique, c'est aussi un travail de médecine légale. La balistique, son but va être de recueillir les projectiles, de pouvoir les identifier, identifier le calibre et identifier par la suite l'arme qui aura pu être utilisée dans ce cadre.
C'est-à-dire qu'on va tracer les balles, on va les extraire des corps et ensuite on va essayer de trouver avec quelle arme elles ont pu être utilisées?
Oui, voilà. C'est le travail de la balistique et ce sont des experts dans ce domaine et ils peuvent remonter assez facilement le calibre utilisé, voir l'arme utilisée si elle a déjà été référencée au sein d'une autre affaire dans le fichier de la police scientifique.
La difficulté là dans cette affaire, on imagine, c'est qu'il y a eu un incendie, du coup forcément les pompiers ont dû intervenir, éteindre les flammes. Est-ce que dans ce cas-là, ça détruit énormément de preuves?
Il peut y avoir des répercussions effectivement sur les preuves. La première des choses à faire, c'est de prendre contact avec les pompiers, de savoir eux ce qu'ils ont vu en arrivant, puisqu'ils auront été les premiers intervenants sur l'incendie. Ce qu'ils auront pu remarquer est très important. Ça pourra aider à la fois la police scientifique et à la fois les enquêteurs pour la suite des opérations. Mais effectivement, il peut y avoir, suite à l'incendie, des déperditions de certaines preuves ou certains objets qui pourront malheureusement ralentir l'enquête.
Et est-ce que malgré tout, on peut trouver quand même des traces ADN dans un appartement qui a été incendié?
Oui, bien sûr, ce n'est pas une fatalité. Effectivement, ça devient plus complexe. Mais aujourd'hui, la technologie et les moyens mis à disposition de la police scientifique permettent d'arriver à des résultats malgré des incendies.
C'est quoi la technique? Comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver des traces ADN dans un appartement qui a été en partie complètement incendié?
Alors, je ne vais pas trop m'épancher sur la façon dont on procède pour justement éviter de de donner des idées à certains, mais le matériel utilisé et la formation des personnels scientifiques permet aujourd'hui d'aller chercher des éléments qui peuvent être souillés ou en partie détruits. On peut travailler sur des traces partielles, sur pas mal de choses pour pouvoir retrouver de l'ADN.
Dans cette affaire-là, les témoins, les voisins racontent avoir entendu plusieurs explosions avant l'incendie. Est-ce que ces détonations, ces explosions peuvent ressembler à des tirs, de pistolets, d'une arme quelconque?
Alors, c'est une question compliquée. Vous avez déjà entendu, comme moi, dans votre vie, des éclats de pétards ou autre objet qui peuvent ressembler à n'importe quelle détonation. Et alors, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte par les enquêteurs, mais d'un point de vue police-scientifique, il sera très difficile de déterminer si effectivement c'était des détonations dues à des coups de feu.
Dans ces cas-là, d'ailleurs, lorsqu'on est témoin d'une explosion comme ça que l'on entend et qu'on a des doutes, c'est quoi la première chose à faire? Il faut appeler la police, même si on est sûr de rien.
Alors, quand on entend effectivement ce genre d'événement, le premier des réflexes serait effectivement de... Alors, ça dépasse mon cadre de police-scientifique, mais dans le cadre de simples citoyens, vous faites le 17, vous prévenez, vous avez entendu des bruits suspects, anormaux, vous employez le terme que vous voulez, et vous donnez l'adresse, et c'est à l'équipage de police secours de prendre en compte ce type d'événement.
Concernant l'homme qui est mort en chutant du 7e étage, les enquêteurs ont retrouvé sur lui 4 téléphones portables, son passe Navigo, on connaît son identité. Là aussi, il va y avoir toute une enquête pour comprendre qui il était, ce qu'il faisait. Il habitait ici depuis 2 ans.
Par rapport à son identité, les téléphones portables vont être exploités en service de criminalistique numérique. Savoir s'ils appartiennent à quelqu'un, à lui, à quelqu'un d'autre. On peut exploiter la totalité des fichiers qui sont à l'intérieur, et des discussions qu'il y a pu avoir. Le travail va quand même être d'une certaine longueur, donc on ne pourra pas avoir tous ces éléments rapidement.
Finalement, le travail des enquêteurs, ça va vraiment être de retracer dans le temps, de raconter une histoire, si j'ose dire, du début des faits jusqu'à la fin et pouvoir expliquer ce qui a pu se passer.
Oui, le travail des enquêteurs, ça va être de mettre en corrélation la totalité des éléments, ce qu'eux auront pu recueillir avec les premiers éléments, les témoignages, ce que la police scientifique va leur apporter, ce que les médecins légistes vont pouvoir apporter au terme des autopsies, pour essayer de retracer la chronologie et la totalité des événements.
Et concrètement, ces prochains jours, comment est-ce que peut se poursuivre une telle enquête? Puisque une fois que la scène de crime a été finalement analysée, que les autopsies ont été faites, c'est quoi la suite? C'est ce que vous venez de dire, les téléphones portables, l'identification des victimes?
Ce sera le travail des laboratoires. Ensuite, tout ce qui va être... en biologie, sur la partie incendie-explosion, sur la recherche. Apparemment, il a été utilisé une substance accélérante, mais il faudra aussi définir laquelle. Il y a aussi savoir les détonations, est-ce qu'il y a eu une explosion, est-ce que ce sont uniquement des coups de feu, toute la partie balistique, voilà, il y a énormément de travail derrière.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Arnaud Loctin, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Je vous remercie.
Et merci à Marie Aimé pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast. Le titre à la une, c'est tous les jours à 18h et tous les soirs à 19h30 sur BFM Radio.
Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au youtubeur InoxTag qui s'est lancé le défi de gravir l'Everest. Après 1 an de préparation, le vidéaste est sur la route du plus haut sommet du monde, ce qui inquiète les professionnels de la montagne. Pourquoi? J'ai posé la question à Salomé Ferraris, journaliste Tech & Co.